Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Ils transforment l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
C'est tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Bartas 107FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour, bienvenue à la brasserie du Trébattu.
Donc le malt, malterie belge, bon c'est du céréal français, parce qu'en Belgique ils n'ont pas les moyens de produire autant de céréales. Donc après il y a différentes qualités de malt, par exemple tu as le... Ça c'est du Cararubi, tu vois, c'est légèrement torréfié. Ça porte des petites notes un peu caramel, biscuit. Après tu as des complètement à l'opposé. Ça c'est du Bordeaux. Là, tu vois que c'est sur des notes vraiment chocolat noir, café. Là, si, même si tu mets le nez dessus, tu vas voir, c'est vraiment ça sent. C'est... Et après, bah, tu as différentes torréfactions. En fait, tu vas partir d'un truc super clair. Qui est plus clair que je vais avoir, ça va être du white que j'ai mis dans par là. Ça c'est du chocolat. Ça c'est du sel. Ça c'est du malt fumé. White, ça c'est du blé, c'est quasiment pas torréfié, c'est super blanc. Tu pars de ça jusqu'à ça. Et c'est, après c'est différentes torréfactions qui fait que tu peux amener soit ta bière sur une blanche ou une blonde, ou soit tu vas l'amener sur une ambrée, une rousse, ou carrément sur de la stout ou l'imperial stout.
Il y a un malt que tu préfères utiliser qu'un autre ou pas?
Ben moi je suis un grand fan d'ambrée. Donc l'ambrée généralement ouais c'est des assemblages, hein. Tu vas mettre une petite pointe de malt choco, une petite pointe de beurlé, un petit peu de cararubi et puis pas mal d'orge blond classique quoi on va dire. Et après il faut trouver la bonne, c'est un peu c'est de la cuisine, hein. Trouver les bonnes proportions pour arriver sur de l'ambrée et pas être trop foncé quoi. Donc après le malt, après on le concasse, ouais, c'est un petit moulin que j'ai bricolé moi-même.
Avec une perceuse?
Ouais. Au lieu de mettre un motoréducteur et tout ça, un moteur de perceuse, tout simplement. Et le but du jeu, c'est d'écraser le grain, mais pas de le broyer non plus. Juste l'écraser pour pouvoir extraire tous les sucres qu'il y a dedans, mais sans l'écraser, sans faire trop de farine non plus. Et une fois qu'on l'a concassé, là, on va pouvoir commencer à brasser. Alors qu'après, on part sur les cuves d'empattage. Les cuves d'empattage, c'est ça, tu vois, c'est petit, hein, par rapport à ce que tu as pu visiter, là. Donc cuve d'empattage où on met de l'eau chaude.
Ça fait combien celle-là?
Ça c'est du 150 litres.
Ok.
150 litres. Donc on met notre malt. Avant de mettre notre malt, on met le filtre, tu vois. Je te l'ai laissé sorti pour t'expliquer. En fond de cuve, t'as ça. Qui te laisse passer le jus, mais pas le céréal. Et l'empattage, en gros, c'est une infusion. Et le but du jeu, c'est d'aller casser la grosse molécule et de la diviser pour avoir plusieurs sucres différents et extraire un maximum de sucre de ton céréale. Donc l'empattage, des températures et des temps à respecter. On filtre à travers ça. Et une fois qu'on a tout filtré, on va le rincer pour vraiment extraire tout ce qu'on peut dedans.
Chauffer du coup au petit réchaud de paella
Voilà, chauffer au gaz. Et après, moi, je branche une pompe pour recirculer pour qu'il y ait exactement la même température en bas ou en haut. Parce que là, vu que je fais de la chauffe que par le dessous, si je laisse comme ça, même en brassant, la température finit par être plus élevée en fond qu'au-dessus. Donc moi, je mets une pompe, comme ça circule en permanence. Et en plus, je brasse. Comme ça, il y a une bonne température bien homogène partout dans ta cuve, qui fait que tu maîtrises bien ton empattage. Après filtration, ça part dans la cuve d'ébullition. Et là, en ébullition, au début, soit tu rajoutes ton houblon pour avoir l'amertume. Ça, c'est le houblonnage de début, une fois que ça commence à bouillir. Et en fin d'ébullition, tu peux ramener encore un deuxième houblon, et là tu vas travailler les aromatiques.
Toutes tes bières sont houblonnées ?
Très peu. Moi j'y vais soft hein, sur le houblonnage. Mmh. Par exemple, j'aime pas l'IPA. Mmh. Donc j'en fais pas, et mes bières sont assez douces en amertume. Et en fin d'ébullition, tu peux travailler aussi les aromatiques. Donc tu peux rajouter du miel, et tous les aromatiques qui sont secs. Par exemple, la blanche, moi je vais introduire de la fleur de sureau sèche en fin d'ébullition. Un peu comme le thé tu le fais pas bouillir pendant 3 ans parce qu'autrement ton thé est pas bon. Avec les aromatiques secs, en fait, ça se travaille un peu comme ça. C'est-à-dire que si tu le fais bouillir trop longtemps, tu vas casser l'arôme et il va changer, il va pas être bon. Et après, fin d'ébullition, bah, refroidissement, et après on arrive dans les 4 cuves qui sont là-haut. Là. Donc fermentation primaire et secondaire. La primaire, tu travailles, la levure, elle va travailler avec de l'oxygène. Et en secondaire, elle va avoir mangé tout l'oxygène, elle va s'être bien développée, on passe en secondaire. Et le but du jeu de faire une primaire et une secondaire, c'est aussi pour avoir des bières hyper claires, bien translucides. Si on pourrait en faire qu'une, hein. Théoriquement ça marche, mais on arrive sur des bières hyper troubles.
Et t'arrives à combien de fermentations au total dans une bouteille ? C'était la refermentation en bouteille aussi derrière ?
Primaire, secondaire et bouteille, donc on est sur 3 fermentations à chaque fois. Comme l'appellation triple, elle est très...
Très large.
Très large parce que ça peut être triple malt. Ça peut être triple fermentation. Si je veux toutes mes bières, je peux les appeler triple. Mais par exemple, à triple, moi, c'est parce que j'ai 3 maltes différents et triple fermentation. Ta bière est plus vivante quand tu fais de la refermentation bouteille. Que quand tu travailles en isobar, on appelle ça. C'est-à-dire que quand tu mets ta bière en bouteille, elle est déjà gazeuse. T'as plus de levure dans la bière. Tu prends une bière qui a été fabriquée en isobar, t'as pas de levure en fond de bouteille. Tu prends une bière qui est refermentée en bouteille, t'as toujours un petit lit de levure. Et faire une secondaire, tu vois, je garde toujours mes bouteilles transparentes, t'arrives quand même sur des bières qui sont bien limpides, quoi.
Ouais.
Et tu vois, t'as le petit fond de levure.
Et ça, du coup, c'est la... C'est...
Ça, c'est grâce à la secondaire, ça. Ouais. On arrive à avoir une limpidité comme ça. Tu fais pas de secondaire, ta bière, elle reste double.
Il y a un côté très limonade.
C'est des bouteilles de limonade, tu vois. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir, ouais. Tu vois, dans les bouteilles transparentes, la bière. Ça, c'est la bière à la framboise, tu vois, elle est légèrement rosée. Et tu vois, ça, c'est de l'ambre. Donc, tu te rends bien compte des couleurs. Là.
Et tu les gardes pour l'exposition dans les bouteilles transparentes
ou... Oui, parce que au niveau de conservation, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bon.
Ça prend trop la lumière.
Ça prend la lumière et tout, ça vieillit mal. C'est pour ça que les bouteilles, elles sont colorées. Mais pour l'explication, ouais, c'est pas mal, tu vois, on voit bien.
T'as
en bouteillage, tout est fait à la main, tu vois. Je pense pas que t'en aies vu dans les autres brasseries, celle-là. Embouteillage, c'est une embouteilleuse gravitationnelle. C'est un système de siphon, en fait. Mmh. Donc, cuve de sucrage. Donc, une fois que ça a fini la fermentation, on repasse dans la cuve de sucrage. On rajoute un léger taux de sucre. Ça, c'est juste pour réveiller la levure, pour qu'elle puisse refermenter en bouteille. Et après, ça passe là-dedans. Alors ça, en gros, c'est un système de siphon, si tu veux. Tu mets ta bouteille, ton niveau de cuve, il est là. Donc, attends, on va l'ouvrir, c'est plus facile pour expliquer. La bière arrive par là. Une fois que la cuve, elle est pleine, hop, ça se ferme. Mmh. Et après, tu mets tes bouteilles comme ça. Tu mets ta bouteille, hop, ça se remplit. Et ça se coupe, tu vois, ton niveau de cuve, tu le règles. Par exemple, il arrive là, le niveau de cuve, à peu près. Et ça arrive là dans la bouteille. Et tu l'enlèves, ça s'arrête et pas.
Et tu les remplis par 5 ?
Ouais. Donc j'ai 5 becs, je remplis mes 5 becs. Et après, dès que j'en ai une qui est pleine, hop, je me mets là, la capsule, et j'envoie là-bas. Et après, l'étiquetage, pareil, c'est une semi-automatique ou une semi-manuelle, si on veut.
Ouais. Qui fonctionne à la colle ?
Qui fonctionne à la colle, oui, parce que moi, vu que je recycle mes bouteilles, c'est très intéressant d'avoir des étiquettes qui se décollent. Mm. Parce que les étiquettes autocollantes, quoi qu'ils ont fait pas mal de progrès quand même sur l'autocollant. Ils font des autocollants maintenant qui se décollent pas trop mal. Hein. Mais ça vaut pas les étiquettes à la colle. Donc là, tu vois, t'as le bac à colle avec le rouleau qui trempe dedans. L'étiquette, elle passe là, passe là, passe là entre les rouleaux. Elle revient dessous. Et là, tu tiens ça à ta bouteille ici et tu viens l'enrouler dessus.
Ouais.
Alors, ces étiquettes, ça sort. C'est mon beau-frère qui m'a fait le design. Et pour la petite histoire... il est parti de cette maquette.
Pourquoi les lions ?
C'est mon petit clin d'œil à la Normandie. Et oui, bah lui, il est du métier, hein, il est graphiste. Il a fait une école de design et de graphiste, donc on voit mon travail, on voit le sien. C'est un métier, il n'y a pas photo. Une bière, faut compter une quinzaine de jours de refermentation, mais moi je conseille plusieurs mois. C'est-à-dire que oui, au bout de 15 jours, 20 jours, ça va être sympa à boire, mais au bout de 3-4 mois, c'est quand même encore mieux. C'est pour ça que les meilleures bières qu'on va trouver, ça va plutôt être fin de l'hiver ou tout début de la saison, plutôt qu'en pleine saison. C'est en pleine saison, les ventes explosent et on a beau avoir du stock, on refabrique un peu et les bières sont moins vieilles que en tout début de saison.
Et du coup, après, elles partent. C'est toi qui les emmènes, c'est toi qui les distribues à droite à gauche. Des gens viennent.
Oui, quasiment toutes les livraisons, je les fais aussi, ouais. Vu que je fais les marchés, en fait, il y a pas mal aussi de commerçants qui me rejoignent sur le marché et qui prennent leur livraison sur le marché. Donc ça, c'est un côté un peu pratique.
On te retrouve sur quel marché ?
Alors, la Canourgue le mardi matin. Ouais. Le samedi matin à Marvejols et Chirac à la saison, parce que c'est un marché de maraîchers. Donc quand on est en hiver, ils n'ont pas de légumes, ils font pas le marché. Et le Chirac, ouais, c'est le vendredi soir.
Et tu disais que tu avais aussi des professionnels qui venaient les chercher. Tu vas les vendre où ? À quel professionnel ?
Donc en Proulx, je vais avoir quelques bars, quelques restaurants sur Marvejols. Il y a le Duplex, le Zoustal. Il y a le café associatif Le Sillon aussi. Après, il y aura l'épicerie à Saint-Germain. Il y a... Qui c'est que j'oublie encore ? Le Repère. À la gare de Aumont. Et puis après, la saison aussi, il y avait le bar de Nasbinal aussi qui m'en prenait.
Ouais, tu trouves que les bars se développent un peu aujourd'hui pour prendre des bières locales ?
Ça commence. Timidement, mais ça commence.
Tu vas faire des fûts pour les bars ?
Alors, je fais quelques fûts, mais pas pour les bars, juste pour les petits événements, parce que moi, je suis en production de 180 litres finis. Donc quelqu'un qui me commande 10 fûts, ça fait 300 litres, et ça ne fait plus d'un brassin, donc c'est pas, ouais. J'arrive pas à suivre.
Ça part vite. Et pour des événements, quel genre d'événements tu fais ?
Les baptêmes, les mariages, les anniversaires, 3, 4, 5 fûts maximum, quoi. Pas plus.
Ouais. Je vois que tu as deux types de bières différentes, les Breisha et les clandestines, ça va être quoi la différence entre les deux ?
Alors clandestine, c'était ma première gamme, que j'ai décliné sous pas mal de références. Et après, j'ai eu d'autres idées. Donc, Braïcha, ça veut dire sorcière en occitan. Et ça, c'est inspiré de ma compagne. Donc, on a sorti la première, c'est une ambrée fumée, qui est vraiment assez atypique. Et la deuxième, on a développé une blonde à la framboise. Et au printemps, si tout se passe bien, on aura eu le temps de développer une Braïcha au CBD.
Tout un monde sur Radio Bartas 107 FM.
Je suis aujourd'hui du coup à la brasserie du Trébattu avec son brasseur Laurent Pigeon. Dis-moi Laurent, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de cette brasserie, comment elle s'est créée et comment toi tu as trouvé comment tu as été inspiré pour te lancer dans ce domaine ?
L'inspiration, elle est simple. Moi, j'ai toujours été amateur de bière. Et il y a maintenant 10 ans, on m'avait offert un kit à brasser, que tout le monde peut s'amuser à bricoler. J'ai commencé avec ça, un peu comme tout le monde, dans la cuisine. Et après, je suis vite fait passer à acheter un petit moulin à céréales, à concasser, à faire ma bière. Et au fur et à mesure que les copains me disaient que ma bière était bonne, j'ai réussi à me lancer, à créer l'entreprise. Et puis, voilà quoi.
Quand tu te lances au début à faire de la bière de ton côté, ça fait quelle quantité ?
Ouais, j'ai commencé tout petit, hein. Mes premiers brassins, ça faisait 20 litres. Voilà, dans une grande marmite, dans la cuisine. Après, j'ai investi l'arrière-cuisine pour avoir un petit peu plus de place. Mais je pense que j'étais une des plus petites brasseries du monde parce que ça faisait 9 mètres 81 carrés, tu vois. Donc dans cette brasserie, je suis monté à 90 litres. Et après, c'était vite fait trop petit et je me suis installé là où ça fait, je sais pas, ça fait 33 mètres carrés, la salle de brassage. Et là, je suis en 180 litres.
Tu fais combien de bières à la fois ?
Alors, j'en ai 8 pour le moment, bientôt une 9e avec la future Braïcha au CBD. Et c'est pour ça que je suis resté quand même sur des brassins relativement petits, mais j'en fabrique 2 à la fois. Okay. Donc, j'ai équipé en 2 fois 200 litres, c'est-à-dire dans une journée, je fais 2 brassins en même temps.
Ça va être quoi les principes et les valeurs de la brasserie ?
Les principes, c'est de réussir à faire une bonne bière et qui reste abordable.
C'est-à-dire, comment on met ça en application ?
Comment on met ça en application? Eh ben, on essaye de récupérer les bouteilles, de les laver. Et puis après, essayer de faire les marchés, faire les livraisons, faire que du local. Pas de marketing, pas de pub. Donc éviter tous ces budgets qui n'ont rien à voir avec la bière au final. Et puis, et puis une grosse poignée de courage.
Et comment ça fonctionne pour toi, du coup, le recyclage des bouteilles? Comment tu les récupères? Est-ce que c'est toi qui fais tout?
Donc, recyclage des bouteilles, pour les pros, c'est assez simple. Je leur livre le plein, ils me donnent le vide. Et après, sur les marchés, je fais passer le mot. C'est-à-dire que si les clients me ramènent les bouteilles, je suis content. Et après, peu importe, que ce soit mes bouteilles ou les bouteilles des autres brasseurs, c'est pas un problème.
Ouais. Il y a t'as quand même des conditions à respecter pour une bouteille que tu récupères?
Que ça soit, il faut qu'elle fasse 33 centilitres ou 75 centilitres et un goulot en 26. Et après, de préférence, si on peut les rincer avant de les ramener, c'est encore mieux. Et après, c'est juste l'étiquetage, quoi. Il y a quelques étiquettes qui sont très compliquées à enlever et d'autres qui sont très simples. Après, n'importe quelle bouteille peut être recyclée.
Et après, toi, du coup, tu les passes à la machine et puis tu enlèves les étiquettes?
Donc, j'enlève les étiquettes d'abord et après, je les lave.
La brasserie, elle est née en 2018, c'est-à-dire c'est quand tu t'es installé à cet endroit-là?
2018, oui, j'étais encore dans mon arrière-cuisine quand je me suis installé en pro.
Est-ce que tu peux me présenter ta gamme de bières? Du coup, tu me disais que tu en avais 9, est-ce qu'on peut les regarder vite fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu pourrais me dire peut-être une anecdote sur certaines, si elles ont une anecdote?
Ouais, alors il y en a 8 pour le moment, la 9e est en préparation, on est sur les bonnes voies, mais elle n'est pas encore commercialisée. On peut commencer par la première que j'ai créée, c'était ma blonde. Blonde où il y a juste un petit peu de miel dedans pour arrondir la bière. C'est pas une bière d'apiculteur, hein, c'est juste pour arrondir le goût. Après, ma deuxième, c'est la blanche fleur de sureau. Ça, c'est parti d'une idée. On était chez des copains à l'apéro et il y avait une copine qui faisait du champagne des fées. C'est une espèce de limonade qui est faite avec de la fleur de sureau sèche, légèrement fermentée. Et du coup, j'ai eu l'idée de mélanger ça avec de la bière. Une bière classique. Hein. Et le résultat était pas mal. Et du coup, j'ai développé ça. Après, la troisième, c'était une ambrée. Ambrée plutôt simple, hein, y a pas de... mais qui est plutôt sympa, avec des petites notes de caramel. Après, j'ai sorti une brune, qui est quand même assez douce, quand même plutôt le côté un peu porteur des Anglais, mais un peu plus forte en alcool. C'est les Anglais, les porteurs, ils vont les sortir à 4-5 degrés, celle-là, elle fait 8. Après, je suis parti sur une Imperial Stout, pareil, que j'ai un peu francisée, parce qu'elle, on est sur une Imperial Stout, mais c'est pas liquoreux, ça reste gazeux, si tu veux, on la goûtera après. Ça reste gazeux et c'est quand même assez... comment je pourrais dire? On est sur des belles notes de chocolat noir et de café.
Ça va être quoi cette différence avec une stout pas impériale?
Alors, Imperial Stout, là, c'est parce que j'ai une bière qui monte quand même à 9,2 en alcool. Une stout, les stouts anglaises, on va être sur du 4-5 degrés. On est sur une bière noire, mais impériale, c'est parce qu'on est quand même sur un taux d'alcool qui est assez élevé. Bon, après, la fabrication, c'est pas mal aussi, parce qu'on a plus l'impression de remuer une bétonnière qu'un empâtage, mais... Et après, la dernière, c'était la Barisha, ambrée, fumée. Ça, c'est pareil, c'est une bière que j'avais goûtée, qu'un copain avait ramené des pays de l'Est. Parce qu'en France, de la fumée, on en trouve très peu. Du coup, ça m'a inspiré, j'ai réussi à sortir ça. Bon, j'ai fait 2-3 essais avant de la sortir, hein, parce que les premiers essais, c'était vraiment très très fumé. J'ai l'impression d'avoir du jus de saucisson.
C'est quoi qui est fumé? C'est le grain?
C'est le malt. On est sur un malt de blé qui est fumé. Et c'est un fumage au bois de hêtre, donc on a vraiment le goût du fumé qu'on peut retrouver dans la charcuterie ou les saucissons, quoi. C'est le même fumage. Et la dernière, ça c'était une bière que... Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, une bière aux fruits rouges. Et là, on est sur une blonde à la framboise, pareil, sous la Barisha. Donc, on est sur une bière relativement légère, elle fait 5 degrés. Et on n'est pas sur une bière sucrée comme on peut avoir sur certaines bières aux fruits rouges. Parce que je travaille directement avec le fruit entier et en fermenteur en secondaire. Ce qui fait que la levure, elle a bien le temps de dégrader tout le sucre du fruit. Et on a vraiment une blonde assez sympa avec un bon arrière-goût de framboison.
Tu fais du coup des gammes que tu gardes tout le temps? Ou est-ce que ça t'arrive de faire des petites éphémères?
Les éphémères, pas trop, parce que après c'est compliqué en petite série comme ça, entre le choix de la capsule et l'étiquetage, où je serais obligé de les vendre plus cher. Alors après, à voir si ça serait vendable ou pas.
Qu'est-ce qui va te distinguer sur le marché tes bières d'une autre brasserie dans le coin? Que la brasserie très battue et la brasserie très battue.
Ouais, je vais avoir des bières qui sont au niveau du houblonnage, ça reste assez soft. C'est des bières assez. L'amertume est pas très 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 marquée par rapport aux autres, je pense. Et après, j'ai beau être un petit brasseur, je suis déjà 8 bières, donc je pense que c'est déjà pas mal. Je peux contenter un peu tous les goûts, quoi.
Je vois que tu as gagné aussi, tu as été finaliste au concours de Lozère Gourmande 2022-2023 avec ta bière blonde.
Donc la bière blonde a été finaliste et mon Imperial Stout est arrivé première, ouais. Bonne expérience, c'était bien sympa de participer à ce concours. Comment je pourrais dire? On est arrivé, finaliste sur la blonde, on était trois dessus, et en plus on est trois brasseurs, où on se connaît, où on est copains, donc on était bien contents d'arriver tous les trois finalistes. Et l'Imperial, j'étais bien content, parce que c'est quand même une bière un peu marquée quand même, qu'elle arrive première, c'était sympa, parce que c'était pas gagné, vu que c'est une bière qui est assez costaud quand même. Réussir à finir premier sur une bière qui est bien marquée au niveau du goût, ça fait plaisir.
Tu dis que vous êtes copains, que vous connaissez quelque chose de brasseur. T'as prévu des collaborations entre vous?
On en parle. Après, il faut qu'on arrive à trouver le temps. Mais oui, il y a des envies. Hein. Après, c'est une question de planning, mais oui, il y a des envies.
Toi, ta brasserie aujourd'hui, elle a une certaine taille, pas très grande, ce qui fait bien se caler. Mais est-ce que tu comptes agrandir encore? Ou est-ce que tu te freines là et tu te dis c'est pas mal déjà?
Mais je me freine pas, je me dis que la taille là, elle reste à taille humaine et j'ai pas envie d'agrandir. Après, le côté développement, ça va être sur l'ergonomie, sur travailler plus. Comment je pourrais dire l'ergonomie, essayer de forcément en faisant tout autant, quoi.
Toi qui as fait à peu près tout ce qui est là, le bar, les étagères?
Et c'est moi qui ai tout construit, oui. Après, oui, l'amélioration, ça va être sur la manutention et sur l'ergonomie.
Et tu comptes rester, du coup, seul brasseur ici ou trouver, je sais pas, quelqu'un en collaboration qui travaille?
Ah non, j'aime bien bosser tout seul. Ouais. Bon, après, on me file des coups de main, hein, mais j'aime bien bosser tout seul. C'est-à-dire que quand je fais une réunion, c'est beaucoup plus simple.
Tu fais goûter ta bière à des gens quand tu les testes, les nouvelles?
Oui, j'ai mes cobayes, oui. Toujours avant de sortir une bière, oui, je fais généralement des petits tests en 20 litres et puis j'offre à droite à gauche et j'attends les retours pour voir.
T'as une anecdote comme ça à me raconter sur une de tes bières, sur sa façon de la brasser, sa création, son...
Par exemple, la blanche, premier essai, bingo, dedans, un essai, et elle t'est validée.
Comment tu sais qu'elle est validée?
J'en ai fait, je sais plus à l'époque, je m'avais fait, je sais plus, 30 litres, et les 30 litres, je les ai offerts, en fait. Aux copains, à la famille, aux bons clients et tout ça, et tout le monde m'a dit, touche plus à rien, elle est bien, comme ça.
One shot, quoi.
Et toi, elle te convenait aussi?
Moi, je trouvais qu'elle était un peu trop chargée en fleurs de sureau, mais tout le monde m'a dit, n'y touche pas, donc j'y ai pas touché.
Tu utilises des ingrédients locaux, est-ce que tu vas chercher à développer un peu certains ingrédients locaux? Bon, pour le malt, c'est compliqué. Pas trop de malterie dans le coin.
Pour le malt, c'est compliqué. Après, le reste, j'essaye de faire en local. Par exemple, le miel, je travaille avec les apiculteurs du coin. La fleur de sureau, je la récolte ici. Je mets un peu de caramel dans mon ambré. Pareil, le caramel, je le fabrique ici. Après, tout ce qui est faisable sur place, on le fait sur place. Et après, bon, c'est vrai que les ingrédients... Si le houblon, tout le houblon vient d'Alsace, j'essaye de faire venir un maximum d'ici, quoi. Et le malt encore, on est sur du français. Donc, et encore, la malterie du château, elle est en train de fusionner avec, la malterie soufflée, qui est une malterie française. Donc, en même temps, Belgique, France, ça reste pas très loin, ça va.
T'as prévu des projets pour l'année?
Les projets, c'est la bière au CBD. Les premiers essais sont plutôt pas mal. Peut-être en refaire un deuxième pour être sûr. Mais oui, c'est en bonne voie.
C'est quoi que tu vas chercher dedans? Ça va être plus une... Tu vas chercher quelle couleur de bière déjà?
On va être sur une blonde. J'ai essayé sur de l'ambré, mais ça ressortait moins bien. Donc, ça va être une blonde au CBD. Avec un petit producteur, justement, de CBD qui est dans le coin. Hein. C'était Chèvre Dolt avant. Et maintenant, ça va être Chanvre Dolt. Super petit produit, là. Donc, j'ai travaillé avec une fleur pour l'instant. Et à voir, il en a 3 autres fleurs. Donc, on va essayer. Mais c'est plutôt prometteur, ouais.
J'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, merci beaucoup à toi pour la réponse aux questions. Tu voulais nous faire tester du coup une bière pour la déguster ?
Eh ben, à toi de choisir. Si t'aimes plutôt les bières légères, ou alors les plus corsées, ou alors un peu plus surprenant. À toi de voir.
C'est tout un monde sur Radio Bartas, 107 FM. Quelle bière tu nous as choisi du coup ?
Alors, Imperial Stout, la bière qui a des petites notes de café, chocolat noir. Donc, Imperial, parce qu'on va être sur une bière qui est quand même à 9,2.
La fameuse qui a gagné le trophée 2022-2023.
La fameuse, qui est passée devant Thomas de la Jonte.
Du coup, très noir, classique d'une stout. Est-ce que tu sais en parler ? Parce que moi, je ne sais pas en parler.
Le mieux, déjà, c'est de commencer par déguster. Ça, c'est vrai que le vocabulaire aromatique, ça dépend beaucoup des personnes aussi.
Ouais.
C'est un arôme foncé, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est presque même un peu fraîche. Un peu trop fraîche. Normalement, Imperial Stout, ouais, moi, je la conseille à entre 12 et 15 degrés. Là, elle doit être à 6-7 à peine.
Et ça va gâcher quelques arômes ?
Eh bien oui, celle-là, si on la boit glacée, par exemple, les arômes café et chocolat, ils sont vachement diminués. C'est un peu le principe dans les bières, c'est-à-dire que plus la bière est foncée, moins on va la déguster fraîche. Par exemple, une blanche, on peut y aller, on peut la boire glacée comme du champagne, et tout ce qui est stout, brune, et tout ça, on va être sur des températures beaucoup plus élevées.
En tout cas, j'ai bien le côté café.
Même réchauffer un petit peu, tu vas voir, c'est meilleur. Tout ce qui est blonde, blanche, ouais, moi je les conseille. Même la blanche, moi je les conseille glacée carrément. Un peu comme le champagne, tu stockes au frigo, tu mets 5 minutes au congélateur et tu sers comme ça. Et tu vois quand elle se réchauffe.
Ouais, il est déjà un peu. Ça, je la trouve même peut-être plus douce.
Non.
Parce qu'il y a peut-être plus un mélange de plus de goût que je ressens.
Oui, et puis trop fraîche, surtout sur celle-là, ça se ressent bien. Il va y avoir une acidité que t'as pas quand elle se réchauffe.
Ouais.
L'acidité s'atténue avec, avec la température.
C'est quelque chose qui est présent dans la plupart des stouts, l'acidité ?
Dans les stouts, c'est pas mal d'avoir une eau acide. Bon, nous, ici, on est sur une eau légèrement acide. Donc, je peux pas fabriquer non plus n'importe quelle bière. Mais moi, j'ai pris le parti pris de pas traiter l'eau.
C'est-à-dire traiter l'eau ?
Eh bien, ajuster les pH. L'eau qui est ici, c'est de l'eau du réseau, mais on a de la chance, le réseau, il est alimenté par une source. Et on a juste un traitement aux UV dessus. Pas de chimique dedans.
Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Ils transforment l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
C'est tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Bartas 107 FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.